Vous êtes sur RTL. Pascal Pro sur RTL.
Merci Christelle et je salue Marie Bénédicte Thaler qui est avec nous.
Bonjour.
Bonjour, vous allez pouvoir répondre, pourquoi pas, aux auditeurs et en tout cas nous éclairer sur cette vie de Valérie Giscard d'Estaing. Véronique, vous disiez classe et charisme. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Ben, j'entends par là que pour moi, il était un peu comme De Gaulle. On sentait que c'était un homme qui, malgré sa jeunesse, parce que c'était un des plus jeunes présidents, avait une intelligence, avait fait des études, était posé, réfléchissait. On a eu un peu ça aussi avec Chirac, avec son, malgré son petit côté coquin, bon, qui faisait un petit peu moins, effectivement, classe. Après, derrière, on n'a pas eu ça. Après, on a des gens qui, on a l'impression qu'ils sont posés là, poussés, pas forcément grâce à leur carrière et à la manière dont ils se présentent ou leur intelligence. Et je trouve qu'effectivement, Giscard était un des derniers qui représentait bien son poste, en fait, où on a besoin à la tête d'un pays, d'un homme qui en impose, d'un homme qu'on regarde avec admiration. C'est plus le cas aujourd'hui. Regardez même aux États-Unis avec Donald Trump, bon, ça n'a pas été ça, quoi. C'est pas quelqu'un qu'on admire. C'est un peu un fantoche. Donc, en tant qu'homme, c'est ça. Et puis, je trouve qu'au niveau politique, il a fait beaucoup de choses, hein. Il a fait quand même, on l'a répété assez ce matin, effectivement, la réforme de l'IVG, la majorité à 18 ans. Il a fait la réforme du Conseil constitutionnel. Il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Si, au niveau de l'école, la loi Habi, où effectivement, l'orientation professionnelle était qu'après la troisième. Il a fait, bon, le divorce pour consentement mutuel, parce qu'avant, c'était uniquement pour faute. Donc, c'était forcément des divorces qui étaient très conflictuels. Donc, il s'est présenté comme étant le président du renouveau. Et c'est un peu ce qu'il a fait, parce qu'en plus il a simplifié le protocole, il conduisait sa voiture, ce qui n'arrivait pas avant. Moi je me souviens, on regardait à la télévision, il allait dîner chez des Français, il était très proche.
Même si aujourd'hui ces séquences communication parfois nous font sourire, c'est vrai aussi lorsqu'il adresse ses vœux avec Adémone le 31 décembre 1975. Mais c'est vrai que vous venez de tout dire et je vais poser la question à Marie-Dominique. Le conservatoire du littoral, c'est lui, le TGV, la gare d'Orsay, le divorce par consentement mutuel, vous l'avez dit, la création du G7, la construction européenne, etc. Donc est-ce qu'au fond on a mésestimé Valéry Giscard d'Estaing?
On a peut-être oublié effectivement tout ce qu'il avait fait pour moderniser la France, pour l'ouvrir sur l'extérieur, pour amener ce vent de modernité, pour faire souffler ce vent de modernité sur la société française. On l'a peut-être oublié parce que la deuxième partie du septennat, eh bien finalement, elle est beaucoup moins brillante et elle est marquée par les difficultés économiques, les difficultés sociales, et parce que lui, il se renferme un peu aussi. Il se renferme sur l'Élysée. Tous ces efforts de communication qu'on décrivait tout à l'heure, sa proximité avec les Français, ça, on le voit beaucoup moins dans la deuxième partie du quinquennat, du septennat, pardon. C'était le septennat à l'époque. Et ce qu'on voit plus, c'est un président qui, sur la fin de son mandat, est crispé quand il est attaqué. Il n'arrive pas à retrouver cette aisance qu'il a au début.
Marie-Bénédicte Thaler avec nous, l'éclatement de l'ORTF, la fusée Ariane Akourou, la cité des sciences de la Villette, les journées du patrimoine, la majorité à 18 ans, on l'a dit, Vulcania également, alors ça sera après, et puis la construction européenne, ça on le dit, on le redit depuis ce matin. Il est 13h06, on va marquer une première page de publicité, merci Véronique. À tout de suite, restez avec nous parce que vous allez pouvoir dialoguer avec d'autres auditeurs.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Bon, Véronique, vous avez voté pour Giscard, Véronique ?
Je me souviens plus, à l'époque, oui, je pense. Oui.
En 74, peut-être pas, parce que vous étiez trop jeune.
Non, je suis 57.
Et donc, mais vous n'aviez pas le droit, puisque c'est la majorité, c'est 21 ans. Donc en 74, vous avez 17 ans.
J'aurais voté parce que je me souviens des barricades de 68, effectivement, où j'étais toute jeune. Oui. Ensuite, effectivement, il y avait les manifestations pour la loi RNU, etc., dans lesquelles j'étais aussi, malgré ma jeunesse, parce que j'étais en région parisienne. Donc, forcément, quand on pouvait rater des journées de lycée, on y allait. Hein. Mais je pense que j'aurais voté pour lui. Je pense que j'aurais voté pour lui. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui lui reprochent après, derrière, leur groupement familial. Lui-même s'est excusé en disant que ça avait été une bêtise. Mais c'est vrai qu'il a quand même subi les deux chocs pétroliers qu'on a eus. Hein. Donc, au niveau économique, pour lui, on a eu un choc en 74 et en 78-79. Donc, pour lui, ça a été difficile. Donc, c'est vrai qu'il a, au niveau économie, il a fait des réformes pour essayer de maintenir, en fait, l'économie. Et c'est ce qui lui a valu sa place. Parce que les réformes budgétaires très strictes, les Français n'ont pas accepté. Et c'est pour ça
c'était
que derrière,
la rigueur de Raymond Barre. Merci, Véronique. Ben, voilà. Alors, Christian est là. Et Christian, c'est intéressant parce qu'il a un souvenir personnel avec l'ancien président de la République. Bonjour Christian, vous habitez dans le Puy-de-Dôme, d'ailleurs,
oui,
qui est,
bonjour,
qui est un des fiefs de Valéry Giscard d'Estaing. Bonjour.
Oui, bonjour. Et... Pascal, vous m'entendez bien ?
Ah, je vous entends parfaitement. Vous étiez où lorsque vous aviez 23 ans ?
Alors moi, j'étais jeune gendarme. Alors j'avais une carrière en gendarmerie, j'étais terminé colonel, et j'étais jeune gendarme, et j'étais à l'escadron de Noyon, Picardie, et on était de service à la résidence du président de la République à Autun. On était de garde. Et moi, j'étais jeune gendarme, bon, j'étais déjà candidat pour devenir chef, être au diplôme d'armes, et j'étais de garde à l'entrée de sa résidence un vendredi soir, il était minuit, et donc j'étais tout seul, et je vois arriver une 604 suivie d'une 504. Donc je les arrête, parce qu'ils se présentaient à l'entrée. La fenêtre avant gauche est ouverte. C'était le président de la République qui conduisait, avec à côté de lui Madame Anémone et les deux chiens qui étaient derrière.
Et là, il est président de la République, évidemment.
Ah oui, il est président.
Et c'est lui qui conduit, ce qui nous paraît invraisemblable dans le monde d'aujourd'hui.
Ah oui, oui, c'est lui qui conduit. Et donc je lui ai présenté les armes. Hein. J'étais avec mon pistolet mitrailleur. Bon, heureusement que j'ai pas ouvert le feu. Et donc, je lui ai présenté les armes. J'ai donc reconnu le président. Donc, il est rentré dans sa résidence. Il est descendu de la voiture. Il a sorti ses chiens. Et il est venu me saluer, me dire bonsoir, comment je m'appelais et tout. Je me suis présenté. Donc, petite conversation sympathique. Mais après, pour l'anecdote, bon, cette résidence d'Autun, bon, le président était très sympa et il venait parce qu'on n'était pas prévenu. Et je pense qu'il venait pour passer un week-end de chasse où on a vu Raymond Barre et ses invités venir chasser le faisan. Et pour une autre anecdote, c'est que derrière le château d'Autun, que j'ai revu tout à l'heure à la télé, il y a une piscine. Et on avait un gendarme de garde le long du ruisseau qui menait derrière le château. Et il y avait une ligne blanche à ne pas franchir parce qu'elle donnait vue sur la piscine. Et une fois, ben, un gendarme a franchi la ligne blanche. C'était bien curieux. Et comme Madame Anémone et sa fille se baignaient dans la piscine, elles ont vu le gendarme et l'escadron a été relevé dès le lendemain.
Autun, c'est dans le Loir-et-Cher, hein,
oui.
Évidemment.
Nous, on était logés à Vendôme.
Et donc, c'est une commune française qui est c'est dans la région Centre-Val de Loire, et c'est une petite commune aujourd'hui. Merci beaucoup, Christian, pour ce souvenir. Alors, on parle beaucoup de Valéry Giscard d'Estaing et de son bilan politique. Il y a quelque chose dont on ne parle pas, Marie-Bénédicte, c'est qu'il appelle à voter non au référendum de 1969 qui va projeter le général de Gaulle dehors.
Tout à fait. Alors que finalement, le général de Gaulle a veillé sur le début de sa carrière. On disait tout à l'heure que c'est lui, de Gaulle, qui l'a envoyé aux États-Unis, notamment, où il a pu rencontrer Kennedy. Et pourquoi il fait ça ? Parce qu'il est en train de construire la suite. Il est en train de se démarquer de Gaulle. D'ailleurs, la façon dont il appelle à voter non, elle est à voter non comme avec du regret. Mais en fait, il se dit à ce moment-là, il y a peut-être un coup à jouer. Et puis, je construis ma personnalité politique. Je m'affirme contre de Gaulle. Et finalement, c'est aussi comme ça qu'il a percé politiquement, qu'il s'est fait connaître. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gaullistes ne l'aimaient pas du tout et sont toujours méfiés de lui.
Oui, et puis c'est un animal politique. Et pardonnez-moi peut-être pour ce mot animal politique, mais les Républicains indépendants en 1974, j'ai envie de dire, c'est un tout petit noyau de personnes, un peu comme Emmanuel Macron. La grande... formation, c'est l'UDR en 74, avec Jacques Chaban-Delmas, avec ses bataillons de députés. Et Chirac, d'ailleurs, va faire l'appel des 43, hein, je crois, et rallier Giscard, mais c'est quasiment un coup de force, j'allais dire un coup d'État, que de prendre la France comme Giscard la prend en 1974.
Oui, absolument. Il attend très peu de temps. Quand le président Pompidou meurt, tout début avril 1974, sa maladie a été tenue secrète, etc. Les Français sont quand même sont surpris parce qu'ils voyaient que le président n'allait pas bien. Et le président meurt, et quelques jours après seulement, Giscard se déclare candidat à la présidence de la République. Ça veut dire qu'il se préparait depuis des mois, voire des années. Il savait que c'était ce qu'il voulait faire, que c'était son destin. Il s'y préparait réellement.
C'était son destin, sans jeu de mots, comme le Parisien l'a titré ce matin, Giscard, un destin. Jacques est avec nous. Alors Jacques, vous n'êtes pas un giscardien ?
Non, non.
Vous ne l'avez jamais été ?
Non, non, jamais, non. Mais bon, il faut remonter dans le contexte. Moi, j'avais 19 ans à l'époque.
À quelle époque ? En 74 ?
Ouais, en 74, j'avais 19 ans. Hein.
Donc vous n'avez pas voté 55, encore. Vous avez voté la première fois en 81 ?
Oui, c'est ça.
Et vous avez voté Mitterrand ?
Comment ?
Je dis, vous avez voté Mitterrand en 81,
ouais,
sans doute.
C'est la seule fois, d'ailleurs, dans ma vie, que j'ai voté à gauche, parce que de Giscard, on en avait ras-le-bol. Et on a dit, bon, il faut qu'il s'en aille. D'ailleurs, il a fait qu'un mandat. Parce que la classe ouvrière, à l'époque, a beaucoup souffert avec Giscard. C'était l'époque du grand patronat. Et les ouvriers ont été un petit peu malmenés sous cette mandature. Après, on a eu Raymond Barre, qui a été très, très sévère aussi. Et moi, Giscard, bon, c'est une personne que je respecte, hein, il n'y a pas de problème, quelqu'un d'intelligent, qui a fait quelques réformes utiles. Mais si vous voulez, j'ai pas mémoire d'un président qui est resté, si vous voulez, gravé dans ma mémoire.
Ben merci Jacques. Alors on avait dit avec Greg Caranoni que remonte aussi avec cette mort de Giscard les années 74-81 qui sont des années parfois un peu mythifiées, de légèreté, d'âge d'or quasiment. Et on s'était dit qu'on ferait une petite playlist des chansons 74-75-76-77 jusqu'à 81 qui ont marqué la France, chansons peut-être françaises. Est-ce que vous avez...
J'ai une chanson en 1974.
Oui.
Qui c'était un carton à l'époque.
Mais ce qui me frappe, vous voyez, c'est combien ces chansons sont présentes et combien ces années sont présentes. Et je disais tout à l'heure à Christelle Robière, pendant le confinement, les gens se sont rués parfois sur des films de ces années-là. Et ça nous interroge quand même. Pourquoi c'est si présent, Vanina ?
Parce que c'est populaire, entraînant, tout le monde le connaît, j'imagine, je sais pas.
Et Dave est toujours là, d'ailleurs.
Et ça en 74 ça... également, vous savez, il y avait Michel Delpech. Si c'est
fichu. Ah oui, ça c'est magnifique, les divorcés. Oui, mais ça c'est une chanson sublime, ça. Entre nous. Ça c'est 74 aussi.
Absolument, c'est une chanson sublime, succès 74. Ça. La vie
continue. C'était les premiers divorcés. Dans les classes, par exemple, en 74, il n'y avait pas deux enfants de divorcés. Je me souviens très bien. Et lorsqu'on apprenait. Quand on avait 11 ans, 12 ans, qu'un enfant, ses parents allaient divorcer, mais on était triste pour lui. Et ça créait évidemment des pleurs dans la classe. Alors qu'aujourd'hui, tous les enfants ont des parents qui sont séparés. Donc c'est un rapport complètement différent au divorce.
C'est aussi parce que les divorces se passaient souvent très très mal, justement parce que c'était pas par consentement mutuel. Il fallait prouver que l'autre avait fauté, etc. Enfin, c'était très long et très douloureux. Alors, ça veut pas dire que aujourd'hui les divorces ne sont pas douloureux. Ils peuvent l'être toujours. Mais effectivement, cette réforme-là, elle a quand même apaisé les choses, apaisé le climat.
Et les enfants, forcément, de divorcés avaient le sentiment d'être seuls au monde, alors qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est la norme. 13h19, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Monsieur Laurent Tessier, vous n'étiez pas né sous Giscard d'Estaing.
Non, 1986.
Vous avez manqué les belles années.
Les faux messages. Après la disparition de Valéry Giscard d'Estaing sur la page Facebook de l'émission RTL, les auditeurs ont la parole. Jean-Marie se souvient d'un jeune président. C'était l'année de mon bac, un espoir au départ pour la jeunesse. Marie-Christine parle d'une grande intelligence, très sympathique avec les Français. Mireille nous partage aussi son anecdote. Un homme assez simple, humain. Il s'était invité en Lozère pour un repas chez les parents d'une amie. Un très bon président, écrit Norbert. Mais je n'aimais pas sa personnalité. santé. Et pour Philippe, la vie était bien meilleure pendant son mandat. Ensuite, le déclin de la France a démarré. Et Annick se souvient aussi de cette période. On était heureux, inconscient à cette époque.
Marie-Bénédicte Allaire est avec nous. On est avec Christine parce que Christine était sur les Champs-Élysées en 74. Bonjour Christine.
Bonjour Pascal.
Et ça va être l'occasion de parler du style de Valéry Giscard d'Estaing parce qu'il entre à l'Élysée à pied, parce qu'il y a cette photo officielle où il pose en costume et non pas en redingote. C'est une photo de Jacques Lartigue, je crois.
Tout à fait.
Donc tout ça, c'est le style Giscard. Entrer à pied, c'est Kennedy.
Oui, c'est ça. C'est, il veut dépoussiérer la fonction. Voilà, on sort des années De Gaulle et Pompidou, et lui, il veut apporter ce souffle nouveau. Il promet le changement. D'ailleurs, à ce moment-là, il dit vous serez pas déçus. Et effectivement, ça passe par des symboles. Et ce premier symbole, c'est cette remontée des Champs-Élysées à pied, cette entrée dans l'Élysée à pied. Cette photo dont vous parlez, elle est très intéressante. Ça dit beaucoup de choses. Les photos que choisissent de faire les présidents, les photos officielles. Il y a un drapeau français stylisé derrière lui. C'est très beau comme image. Ça aussi, c'est très, très moderne. Et puis, c'est lui aussi qui trouve que la Marseillaise, telle qu'elle est jouée à l'époque, est trop guerrière. Donc, il fait ralentir le rythme de la Marseillaise. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. On a beaucoup parlé, effectivement, des invitations à dîner chez les Français moyens, l'invitation des éboueurs à manger à l'Élysée, à prendre le petit déjeuner à l'Élysée, les causeries au coin du feu. Enfin, tout ça, c'est de l'image. Alors, ça peut faire sourire parce que on dirait aujourd'hui, c'est de la com. Mais c'est aussi la volonté de se montrer plus proche, finalement, plus proche des gens.
Christine, vous êtes sur les Champs-Élysées. C'est le 21 mai 1974, l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing à l'Élysée.
Pour moi, ça a été un aboutissement parce que j'avais 20 ans, j'étais en pleine étude, j'étais dans une famille très gaulliste, très traditionnaliste, et là on avait l'impression qu'on allait avancer. Il y avait un programme qui était fantastique, je faisais partie des jeunesses giscardiennes et on a eu un espèce de souffle qui nous est arrivé avec toutes ces propositions dont vous avez parlé. Et il y en avait une qui nous touchait, nous les filles, beaucoup. C'est enfin prendre en considération les filles, les femmes. Je parle de Monique Pelletier, je parle de Simone Veil et aussi leurs conditions au travers de l'IVG, au travers... C'était quelque chose qu'on attendait, qu'on n'espérait plus. Et c'était un petit peu, comme j'ai pu l'imaginer, un coup de pied dans la fourmilière.
C'était aussi la première campagne présidentielle moderne, on voyait les jeunes filles et les jeunes gens qui faisaient la campagne de Giscard avec ce t-shirt Giscard à la barre, ses photos, la photo avec la plus jeune de ses filles, dont Louis Giscard d'Estaing disait tout à l'heure qu'elle n'était pas faite à l'origine pour être l'affiche de campagne, mais ça aussi c'était nouveau de montrer ses enfants finalement.
Et il y avait des artistes. Je me souviens de Dany, la fameuse chanteuse Dany. Mais il y avait également Johnny. Il y avait eu un grand rassemblement au Palais des Sports de Versailles dans les derniers jours. Tout ça, vous pouvez le voir dans un document extraordinaire qui est parti de campagne de Raymond Depardon, qui est éblouissant parce que c'est une France qui est morte. Regardez ce documentaire, c'est une France qui n'existe plus, Christine. Est-ce que vous avez été satisfait du septennat de Valéry Giscard d'Estaing, Christine ?
Le premier, c'était merveilleux parce que c'était...
Mais il n'y en a pas eu de deuxième, en même temps.
Non,
il n'y en a eu qu'un. Ou alors ça nous a échappé.
Le deuxième était en rêve pour moi.
Oui.
Mais voilà, mais c'est vrai que ça a été vraiment l'illustration de ce qu'on attendait. C'est-à-dire un président qui était accessible, c'est-à-dire un président qui, je ne vais pas dire qu'il a fait ce qu'il a dit, mais il a quand même concrétisé beaucoup de nos espoirs.
Et notamment, effectivement, alors la place des femmes, hein, je le disais tout à l'heure aussi à Christelle Robière, lorsque Simone Veil part pour le Parlement européen en 1979, il reste deux femmes dans le gouvernement, c'est absolument incroyable. Monique Pelletier et Alice Saunier, CIT. Donc la place des femmes, effectivement, dans ces années-là, on est dans une rupture. Et les femmes, François Giroud...
Il est le premier à avoir nommé une femme à la condition féminine, effectivement, puisqu'à l'époque, il fallait qu'un ministre s'en occupe à temps plein des femmes, tellement il fallait faire avancer leurs droits.
Oui. Et donc... c'était un petit peu la suite de ce qu'on disait par rapport à 68, qu'il y avait eu un mouvement de révolte pour beaucoup, beaucoup de sujets, et celui des femmes n'avait pas été pris en compte. Et là, on a eu l'impression qu'on allait enfin rentrer un petit peu dans le sujet, faire partie de la vie politique. Pour moi, ça a été vraiment un élément déterminant dans tous les discours politiques que je pouvais entendre à l'époque. Il n'y avait que Valéry Giscard d'Estaing qui avait cette approche de dire, bon, il faut absolument prendre en compte aussi cette approche féminine.
C'est vrai que c'est assez étonnant que, par exemple, que la candidature de 74 de Mitterrand, elle n'est pas autant axée, alors que c'est la gauche, a priori, qui est un peu plus progressiste sur ces idées-là. Il y a moins de place pour les femmes que chez Giscard, et les femmes, donc, vont voter Giscard en 74.
Voilà. Le remboursement de la pilule, notamment, le remboursement de la contraception, c'est une avancée énorme, puisque ça permet à toutes les femmes de toutes les classes sociales de pouvoir...
Mais la pilule, c'était pas avant, c'était pas déjà...
La pilule existait avant, oui. Mais elle n'était pas remboursée par la Sécurité sociale.
D'accord.
Et c'est sous Giscard, très vite, je crois, en 75, qui décide de rembourser effectivement la contraception.
Et la libéralisation des prix, parce que ça, on l'a oublié, le prix n'était pas libre. Dire aujourd'hui que le prix du pain en France de 73 et obligatoire, fixé par l'État, ça nous paraît aussi incroyable. Je vous remercie, Marie Bénédicte, puisque je crois que c'est notre amie Sportouche qui va venir dans quelques instants. Est-ce qu'on a une petite musique puisque nous égrenons la playlist des années Giscard?
Merci à vous
Marie Bénédicte.
En 1975 sortait L'été indien.
Ah non, ça c'est... En fait, c'est ma playlist de tous les jours que vous faites.
Bah, je suis allé sur votre compte 10h.
Merci Marie.
Et on écoutait aussi Annie Cordy cette année-là.
Attendez, laissez un petit peu l'été indien. Toute la vie sera pareille à ce matin. C'est magnifique ça. Et puis alors, Annie Cordy, dites-vous. Ah non, mais ça c'est génial ça. Regardez la couleur de ces années-là.
Alors que Benjamin Sportouche entre dans le studio.
Très bien. Mais je peux point. C'est pas facile d'être à la dire quand on est une fille comme moi. C'est magnifique ça. Eh bien bonsoir. Cadence-toi. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Benjamin Sportouche est avec nous, le chef du service politique d'RTL.
Bonjour Pascal.
Est-ce que vous êtes au courant de ce soir, Emmanuel Macron, à 20h, il va parler.
Oui.
Est-ce que vous savez ce qu'il va dire ou faire? Eh bien, il se pourrait qu'il y ait une allusion dans le décor ou une sorte d'hommage à Valéry Giscard d'Estaing.
Ah. Je pense pas que vous allez me dire qu'il allait partir en disant au revoir ou à bientôt.
Non, je sais pas ça. Alors, moi, la piste que je mets en place, est-ce qu'il va parler devant une cheminée? Visiblement, il y a quelque chose de cet ordre-là qui sera pourquoi pas fait ce soir. Je suis pas sûr que ce soit aussi démonstratif que ça. Je suis pas sûr que ce soit aussi démonstratif.
Les paris sont ouverts.
Mais manifestement, le président de la République va parler 10-12 minutes. Et il y aura quelque chose dans le décor, une petite surprise, je n'en sais pas plus. Je pensais
toujours
que...
aussi bien informé, je crois que je vais laisser ma place.
Mais non, justement, pas si bien que ça, puisque je n'ai pas le fond...
Ah mais vous avez déjà des éléments.
Je n'ai pas le fond de l'affaire. Bon, Giscard, la classe politique, c'est Emmanuel Macron ou pas?
Pardon?
Est-ce que c'est... Il y a une parenthèse? Il y a une parenté avec Emmanuel Macron?
En tous les
Macron.
Cas, le président de la République veut s'inscrire dans ses pas, dans son côté réformateur, et notamment, eh bien, sur les réformes sociétales. Qu'est-ce qui marque chez un président? Le plus souvent, c'est ce qui est sociétal. Parce qu'en termes d'économie, eh bien, c'est vrai que le plus souvent, là aussi, ce n'est pas ce qui porte ses fruits, où les dernières réformes économiques n'ont pas été si favorables, parce que la crise était là.
Alors, Jean-Baptiste de Scorail, on dit comme
oui,
ça?
Bonjour. C'est ça, c'est bonjour. Tout à fait ça. Bonjour Pascal.
Bonjour, vous êtes adjoint au maire d'une petite ville?
Oui, d'une petite ville de province qui est Toulouse.
Ah, d'une grande ville même.
Voilà,
d'une grande ville, Jean-Baptiste.
La quatrième ville de France.
Ah, mais pardonnez-moi, voilà. Excusez-moi, effectivement, je pensais que vous étiez.
Non, et je suis conseiller départemental aussi de la Haute-Garonne. Et voilà, je voulais rendre hommage à notre président, puisque moi, j'avais 11 ans quand il a été élu. Et je me rappellerai toujours du jour où je suis revenu à l'école en demandant à tous mes copains de classe pour qui leurs parents avaient voté, ce qui ne se faisait pas. Et mes parents avaient voté Giscard. Donc je pensais que pour moi, c'était l'idéal. Et donc, voilà. Et donc, quelques années après, je suis rentré aux jeunes giscardiens, comme la dame tout à l'heure. Et il m'est arrivé beaucoup d'anecdotes autour, en particulier, de la campagne de Giscard, parce qu'à cette époque-là, c'était des grandes campagnes à l'américaine. On organisait des trains entiers de province pour aller au meeting de Paris. Et je me souviendrai toujours d'un meeting qui était organisé en dimanche, en début d'après-midi. Et donc, on avait organisé un train qui était parti de Toulouse le samedi soir. Et arrivé à Brive, vous aviez un quai avec 70 cheminots, le pantalon baissé, nous montrant leurs fesses et donnant des phrases que je ne dirai pas à la radio. Et c'était des choses qui étaient complètement étonnantes. Une autre anecdote, j'avais aussi fait de la politique en classe et ça ne se faisait pas. Et mon directeur m'avait collé. Et c'est la première fois que j'ai pris l'avion parce que l'équipe de Giscard m'avait envoyé un billet pour assister au meeting malgré le fait que j'avais été collé le samedi après-midi.
Mais vous aviez quel âge là? Vous aviez 16 ans?
Au moment des élections, j'avais juste 17 ans. Malheureusement, j'ai eu 18 ans et j'aurais sûrement, avec mon vote, fait basculer des choses. Mais j'avais 18 ans au mois de juillet, donc j'ai pas pu voter. Mais c'est des souvenirs extraordinaires, et d'autant plus qu'il était très proche des jeunes. Et je me rappelais d'un jour où il était venu présenter un grand plan dans le sud-ouest, et on avait eu la chance de déjeuner en tant que table de jeunes, pas loin de lui. Et j'ai un nom d'origine auvergnate, et on avait parlé de ça, et j'avais trouvé que cette personnalité était extrêmement proche des jeunes. C'était quelqu'un de très moderne, et c'est lui qui m'a donné envie de me lancer en politique.
Et aujourd'hui, quel est son héritier, selon vous ?
Alors, aujourd'hui, son héritier, il y a beaucoup d'héritiers. Je ne suis pas macroniste, donc je ne vous dirai pas que c'est Emmanuel Macron, mais je pense que c'est un vrai homme d'État. Alors, est-ce qu'il y a un héritier? Je ne sais pas, mais c'est un vrai homme d'État.
Oui, mais j'attendais quand même de vous que vous me donniez une piste, ou sinon un nom, du moins un courant, ou alors il n'y en aurait pas. C'est-à-dire que le giscardisme est mort avec Giscard. D'ailleurs, il faudrait définir ce qu'est le giscardisme. Libéral, réformateur. Finalement, le changement dans la continuité, qui était le slogan, je crois, de 81, il y a un côté en même temps chez Giscard. Benjamin Sportouche.
Oui, il y a un côté, c'est le côté réformateur de Valéry Giscard d'Estaing qui restera, parce que c'est vrai qu'il va très vite, il va au pas de charge quand il arrive à l'Élysée. Alors, est-ce qu'il y a encore une forme de giscardisme? Vous savez, j'allais vous dire, est-ce qu'il y a encore une forme de mitterrandisme? Est-ce qu'il y a encore une forme de chiracisme? Tout cela semble du passé, tellement nos politiques sont aujourd'hui dans une forme de pragmatisme. Vous voyez, et Emmanuel Macron, c'est cela, c'est-à-dire qu'il picore, il peut être aussi bien giscardien que mitterrandien dans sa manière un peu, vous savez, éloquente de parler. Eh bien, c'est cela. Et puis, chiracien aussi, quand il essaye d'être proche des gens, ce qui n'est pas toujours facile. Donc, il y a une forme de combinaison. Je ne suis pas certain aujourd'hui que ces courants-là, que ces présidents-là, inscrivent dans l'histoire une forme monolithique, vous voyez, d'idéologie et de parcours. Les présidents, celui-ci et certainement ceux à venir, vont aller prendre ici ou là ce qui a portés à la victoire, et notamment sur la communication. Il est clairement, Emmanuel Macron, il est clairement dans une forme de communication, de marketing politique, dont l'inventeur quasiment fut Giscard d'Estaing.
Jean-Baptiste Scorail, un héritier quand même à nous donner, ou un commentaire sur ce que dit Benjamin?
Oui, je suis d'accord avec Benjamin, je pense qu'un héritier complet, non, parce que je pense qu'effectivement, à l'heure actuelle, on pioche un peu partout, mais je trouve que ça a été vraiment le président de l'ère moderne, et c'est vrai qu'à la fois pour les jeunes, à la fois pour les femmes, à la fois au niveau économique avec l'Europe, il a fait quand même beaucoup de choses. Après, bon, il y a des choses sur lesquelles j'étais moins, effectivement, d'accord, mais c'est vrai que c'est un président qui a, je dirais, ouvert la porte au modernisme. Bon, malheureusement, il a été certainement incompris par les jeunes, et c'est ça qui l'a fait perdre certainement aux élections, alors qu'il avait tout fait pour eux pendant son septennat.
Ben merci beaucoup, monsieur de Scorail, et c'était un plaisir de vous entendre depuis cette ville de Toulouse. Alors, on a fait 74 pour les chansons, nous avons fait 75, et maintenant nous allons à l'année 76, forcément.
C'est la mienne, alors encore.
Ce qui est logique. Vous êtes de quelle année,
77,
cher ami?
77.
Ah, comme le président Macron!
Voilà, c'est
le président Macron qui avait quand même 3 ans, il va lui rendre hommage ce soir, mais il avait 3. Il est né en 1977.
Décembre.
Jacques Grégory.
En 1976, sortait...
Cette année-là, dans le ciel,
Et ça, c'est une chanson qui faisait référence à 62 et au début de Claude François. Claude François, d'ailleurs, j'ai vu un document qui circulait sur les réseaux, document de l'INA, où Claude François chante « Douce nuit » avec au piano Valéry Giscard d'Estaing à un Noël de l'Élysée. Et on doit être en 76 ou 77.
On revient à Noël.
On revient toujours à Noël.
Cette même année, Gérard Lenormand.
Voici les clés.
Oui.
Elles sont en or, on sait jamais. Ça peut servir.
La la la, la la la, la 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 la.
Ne tentez pas, j'ai ce qu'il faut.
On n'est jamais perdant. Quand on aime.
Ne chantez pas, Benjamin.
Non, j'admire.
Et n'oublie pas l'anniversaire de Nicolas.
Je suis bluffé.
Et n'oublie pas l'anniversaire de Nicolas. Non, mais ça, c'est génial. Ça, c'est la chanson française, madame. Gérard Lenormand, c'est un génie. C'est un génie, le petit prince de la chanson. C'est la couleur de ces années-là. Il est 13h40. Je suis persuadé que ceux qui nous écoutent dans leur voiture et qui ont passé 50 ans...
C'est intéressant, Raphaël Baquet, ma consoeur du Monde, fait un très beau papier dans le Monde cet après-midi et elle dit que les Français, à ce moment-là, n'ont pas encore plongé dans ce pessimisme et cette haine de soi qui mineront leurs années 2000.
Mais elle a tellement raison.
C'est bien écrit.
Et la rancœur, les passions tristes, le ressentiment, cette période est horrible, mais on est là, donc on va pas partir tout de suite. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Le grand jury dimanche.
Oui.
Benjamin Marlène Schiappa.
Oui, tout à fait, qu'on a envie d'entendre justement sur les avancées en faveur des femmes sous le mandat de Valérie Giscard d'Estaing.
Deux femmes simplement entre 79 et 81 pour terminer le septennat.
Oui.
Monique Pelletier et Alice Saunier-Séité.
Vous avez raison. Et en même temps, le premier secrétariat d'État à la condition féminine.
Exactement. VGE incarne l'excellence, polytechnicien énarque, la haute intelligence au service de l'État, une attitude de vue que les médiocrités du quotidien n'atteignaient pas, une vision pour la France, un style pour la présidence, réformateur, conservateur, qu'incarnait un slogan, l'a dit, le changement dans la continuité. Nous sommes avec Marie-Agnès, qui n'est pas du tout fan de Giscard. Pourquoi ?
Pas du tout. Alors moi, sa mort me laisse complètement indifférente. Hein. D'abord, il a 94 ans. Bon, écoutez, hein, moi j'ai un mari qui est mort à 60 ans, donc bon, ça va, il a bien vécu. Je me dis qu'on va faire des économies, parce que ça nous coûte cher, les anciens présidents, les appartements, les machins, tous les trucs. Moi, je suis d'une famille de gaullistes, vieille gaulliste, et je n'ai pas voté pour lui en 74, et je n'ai pas voté pour lui en 81. Entre 74, j'ai voté pour Chaban, parce que pour moi, la nouvelle société de Chaban, c'était quelque chose de qui nous aurait peut-être évité les problèmes que l'on a actuellement de société. Hein. C'est parce que pour moi, Chaban était un visionnaire. Et moi, je lui en ai voulu d'avoir trahi De Gaulle, d'avoir appelé à voter non pour le référendum. Moi, c'est la première fois que je votais.
On l'a dit hein, tout à l'heure, parce que c'est très peu dit hein, ce non au référendum en 69. On le répète.
Voilà, son nom, hein, il a exactement la même attitude qu'a le locataire de l'Élysée, parce que moi je ne peux pas prononcer le nom de Macron, je le dis un peu.
Bah, vous venez de le dire là.
Hein, oui, je viens de le dire, d'accord, mais Macron a fait la même chose, Macron a trahi, il s'est servi de Hollande et puis après il l'a trahi, et ben lui il s'est servi de Gaulle, et puis moi ce que je lui ai pas pardonné non plus c'est son indécence quelques jours après, j'ai une mémoire d'éléphant, puis bon j'ai fait de la politique, hein. Il a son indécence à annoncer sa candidature alors que Pompidou était à peine froid.
Ah bah attendez, pardonnez-moi, mais Chaban était allé avant, donc là Chaban avait présenté sa candidature avant Giscard.
Oui, d'accord. Oui,
et
oui,
alors
d'accord.
Là, pour le coup, le corps était à peine froid, vraiment. Chaban, et d'ailleurs, ça lui a été reproché, sans doute, ça jouait contre lui. Et Valéry Giscard d'Estaing avait attendu...
J'avais oublié Chaban, j'ai mémoire un peu, machin.
Oui, bah, mémoire d'éléphant, avec quand ça vous arrange, chère Marie-Agnès.
Non, c'est vrai que j'ai oublié.
Non, mais Chaban, là-dessus, a fait une erreur, et chacun l'a...
Chaban a fait une erreur,
il a fait deux erreurs, Chaban, en 74. La deuxième, c'est quand il a fait une allocution ou une intervention avec Malraux. Oui. Où c'était alors absolument terrifiant.
C'était pas possible. Il avait voulu faire comme De Gaulle avec Malraux.
Ah oui, mais là tu voyais les électeurs qui partaient par flot entier en même temps que Malraux parlait à côté de Chaban. Allez-y, Marie-Agnès.
Je trouve qu'il y a eu cette émission absolument remarquable sur De Gaulle, sur les quatre, avec le comédien qui était très bien pour rappeler certains événements. Bon, moi, je trouve que, après, il l'a reconnu quand même sa fin de sa vie, parce qu'il a reconnu quand même que de temps en temps qu'il avait fait des erreurs. Moi, je lui ai reproché le regroupement familial. Ça, pour moi, c'est une erreur absolument
fondamentale. A posteriori, sans doute, quand il l'a décidé, c'était plutôt des bonnes idées.
Bon, enfin, c'est, ouais, enfin, si on veut, moi j'étais déjà contre. La majorité des 18 ans, je trouve que c'est une stupidité, parce qu'à 18 ans, j'ai eu des enfants, à 18 ans, on n'est pas mûr, on subit les influences, et d'autant plus maintenant, le vote à 18 ans, ils sont à la merci de tout ce qu'on peut raconter comme fake news et autres sur les réseaux sociaux.
C'est la même chose quand on ne pouvait pas donner votre vote aux femmes.
Vous n'êtes pas très progressiste, Marie-Agnès. Hein, c'est pas...
Non, pour certains côtés, je trouve qu'il y a des fois où il faut laisser les enfants mûrir. Et d'autre part, si vous voulez, moi je me rappelle aussi, rappelez-vous, bon, on disait que c'était un homme à femme, et rappelez-vous le coup des laitiers. Hein,
oui, alors le coup des laitiers, c'est une légende urbaine. Est-ce que c'est une réalité ou pas? C'était une actrice célèbre que je ne citerai pas ici.
Oui.
Grande et blonde, qu'on avait dit arriver à l'heure du laitier dans la cour de l'Élysée, ou en tout cas qu'avait eu un accident peut-être de voiture parce qu'il revenait avec elle. Bon, tout ça fait partie de la légende urbaine, peut-être, chère Marie-Agnès.
Oui, ça fait partie, si on veut.
Non, bon, mais moi, en tout cas, vous ne l'aimez pas beaucoup. Mais vous aimez peut-être l'année 77, qui est l'année de naissance et d'Emmanuel Macron et de Benjamin Sportouche, qui ont donc ce point commun. Qui est plus vieux, c'est vous ou c'est le président?
C'est moi, je dois le reconnaître.
Bon, vous êtes de quel mois, Benjamin?
Février.
Février, donc, ah oui, vous êtes Verseau.
Voilà, c'est ça, vous saurez tout.
Quel jour du mois de février? Faut pas dire. Bon,
le 16, allez, je vous
le dis. Le 16, beau jour. Bon, donnez-nous quelques musiques de 77, cher Greg.
En 77, on écoutait Téléphone et Ligiaphone.
Très moderne, ça, évidemment.
Bien sûr.
Très rock.
On écoutait aussi Marie-Myriam, L'oiseau et l'enfant.
Ah oui, dernière victoire à l'Eurovision.
Normalement, c'est Pascal qui le dit. Hein, mais...
C'est moi, l'enfant, c'est toi. Et je rappelle qu'on n'a plus gagné l'Eurovision depuis 1977, mais tant mieux parce qu'on peut écouter cette chanson. Il y a trois choses qu'on n'a pas fait, c'est-à-dire qu'on n'a plus de vainqueur de Roland-Garros depuis 83, on n'a plus gagné un Tour de France depuis 85, je crois, Fignon, et on n'a plus gagné l'Eurovision depuis 77. Et c'est France Gall, là?
Oui, absolument, musique.
77.
C'est une bonne, oui.
Bah, non mais c'est exceptionnel. France Gall, Jonas, Souchon, Woolsey, toute la chanson française.
Il y avait une forme de légèreté à ce moment-là. On n'est pas très loin de... On est 10 ans seulement après 68, hein, tout ça. Et d'ailleurs, c'est tout le talent aussi de VGE de surfer encore en 74 sur ce qui est encore chaud de 68.
La pub, il est 13h50, on est en retard.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pour faire un jeu des modernes, je vais ajouter en bonus track dans mon album de Jeanne Calment un truc plus récent.
Ça n'a pas 3, l'air.
3-4. Macron, roi des impôts, roi des couillons. Ah, Macron, roi des impôts, roi des couillons.
Merci, monsieur le président.
Valéry Giscard d'Estaing imité par Thierry Leluron, par Laurent Gérard aujourd'hui. Ça aussi, c'était très important dans la vie du spectacle français, les imitations, Mitterrand, Giscard. Aujourd'hui, il y a moins de gens imités. Hein. Jean Castex, d'une certaine manière, est une aubaine, me disait tout à l'heure Jérôme de Verdière, hein, pour les imitateurs, parce qu'il y a moins de personnalités aussi fortes. On en parlera d'ailleurs, parce qu'on appellera Jérôme de Verdière tout à l'heure, Benjamin.
Oui. Non, mais juste, pardon, sur. C'est marrant, on entendait les impôts. Vous savez qu'il a été le président qui a le plus augmenté les impôts, parce que la dette de la France commence à augmenter. Il y a 1 million de chômeurs quand même à la fin de son septennat. La situation économique devient compliquée. Donc, elle est très florissante, la situation, quand il arrive. Elle devient plus compliquée. Et c'est là que le virage, il est plus difficile à négocier. Il prend Raymond Barre, souvenez-vous, il dit le meilleur économiste de France pour succéder à Jacques Chirac, mais en fait cela ne suffit pas. Et d'ailleurs, on le disait, on a fait une petite erreur factuelle tout à l'heure, il faut la corriger. Dans les erreurs qu'il a pu commettre, c'est ce slogan qu'il va choisir pour 1981, il faut un président à la France. le changement dans la continuité, c'était 1974. Bien et sûr. Il faut un président à la France. Eh bien, tout le monde a s'est posé la question. Mais alors, il n'y en avait pas entre 1974 et 1980. Donc, vous voyez, il perd en fait le fil de toute sa modernité très rapidement. Mais ce qui est remarquable quand même, c'est cet homme, c'est sa tentative de reconquête du pouvoir, je le racontais ce matin, quand il revient et qu'il se fait réélire conseiller général, conseiller régional, et il espère même se faire réélire président de la République, il y pense pour 1995.
Et puis finalement, il ne pourra pas, puisque en 1995, c'est Balladur prend l'espace de l'UDF, et l'UDF rallie Balladur et trahit, alors que l'UDF avait été créé, disons-le, par Valéry Giscard d'Estaing. Mais la vie politique, c'est une suite de trahisons. Christian, comme la vie tout court, parfois, cher Benjamin. Christian est là. Christian.
Oui,
Christian de Dijon.
Oui, bonjour Pascal et bonjour à toute l'équipe d'RTL.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, ces années à Giscard, qu'est-ce qu'elles vous évoquent ?
C'est la fin d'une période glorieuse. C'est une période heureuse que j'ai vécue. J'ai vécu donc les années, mes années d'enfance sont les années Giscard, donc celui-là j'en garde un souvenir vraiment excellent, et il n'a pas suffisamment été reconnu comme il aurait dû l'être. Donc au niveau des principales réformes de son septennat, tout a été dit précédemment, l'IVG, la majorité à 18 ans et le divorce par consentement mutuel. Mais moi je voulais... Est-ce que ça a peut-être pas suffisamment été dit dans votre émission, revenir sur les causes et les conséquences de la défaite de 1981. Donc, la cause principale de la défaite de 1981, c'est la trahison de Jacques Chirac et d'un certain nombre de gardiens du temple gaulliste, comme Charles Pasqua, qui lui ont fait payer sa prise de position de 1969 sur le référendum qui a conduit au départ du général de Gaulle. Et il y a également une zone d'ombre sur ce septennat qui est la mort de Robert Boulin, qui n'a jamais été élucidé. Robert Boulin, qui était le ministre du Travail de Valéry Giscard d'Estaing, et qui était...
A priori, elle est élucidée d'ailleurs, hein, puisque l'enquête a conclu à un suicide.
Élucidée dans ce sens-là, si vous voulez, mais toujours est-il qu'on ne me fera pas croire que Robert Boulin ait pu se noyer dans 50 centimètres d'eau. Ça, c'est...
Christian, ce que je vous propose, c'est qu'on va poursuivre la conversation après le flash de 14h. Je salue l'ami Cyprien Sidi, remarquable surf ce matin.
Merci, bonjour à tous.
Sur ces années-là.
Ah, les années Giscard, formidable. Concorde, le TGV.
Mais bien sûr.
Ça me fait regretter de ne pas avoir vécu cette époque, je vous le dis.
Mais bien sûr.
Pourtant, vous êtes né sous Giscard.
En fait, c'est quelques mois.
C'est les dernières années, pardonnez-moi de le dire comme ça, où la France est grande.
D'insouciance.
Oui, enfin, ne soyons pas passéistes.
Mais je veux bien, mais comme vous le dites, les grands succès, c'est le nucléaire, l'Airbus, ouais. Vous l'avez dit, le TGV,
etc. Il
n'y avait
pas l'écologie des Verts à l'époque. Hein.
TGV, je ne veux pas rentrer dans ces détails, cher ami. Restez aussi quelques secondes avec nous et puis enlevez. Vous ne voulez pas enlever votre masque là ?
Non, je n'ai pas le masque.
Mais bon, je vais lui céder la place.
13h, pourquoi ?
Je reste pas longtemps, j'ai du travail.
Bon, 13h58, Olivier Bois est là, qui n'était pas né sous Giscard.
C'est
né
comme moi.
En 1980. Restez encore quelques secondes et on rend hommage à Valéry Giscard d'Estaing. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Il est 14h. Le flash avec Olivier Bois.
Et toujours les hommages après la mort de Valéry Giscard d'Estaing, qui s'est éteint hier à l'âge de 94 ans dans sa maison du Loir-et-Cher. Il est mort du Covid, il était très faible depuis plusieurs semaines. Emmanuel Macron prendra la parole ce soir à 20h pour saluer sa mémoire et son bilan. Un président qui a modernisé la France des années 70, c'est le constat qui est assez unanimement partagé depuis hier soir. Claude Guéant est désormais mis en examen pour association de malfaiteurs dans le cadre de l'enquête sur le financement présumé illégal de la campagne de 2007. De Nicolas Sarkozy. Claude Guéant, alors plus proche collaborateur de Nicolas Sarkozy, est soupçonné d'avoir récupéré de l'argent libyen auprès d'intermédiaires. Lui conteste ces accusations. Quelle politique pour la campagne de vaccination ? Jean Castex dévoilera ce soir les choix qu'a fait l'exécutif. L'enjeu est important parce que les sondages le disent les uns après les autres. Il y a à ce stade une forme de réticence de la part d'un certain nombre de Français vis-à-vis de ces vaccins qui sont arrivés très vite. Le quintet à Vincennes, l'arrivée provisoire à l'instant, le 2, le 3, le 5, le 14 et le 4. Et le temps demain matin qui sera assez instable avec des passages pluvieux attendus sur toute la moitié est du pays, humide également dans le nord. Le temps sera relativement sec en Île-de-France et sur les Pays de la Loire. Température 3 à 6 degrés demain matin sur la moitié nord jusqu'à 13 degrés à Marseille.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Et avec le programme que vous devinez, Laurent Tessier, c'est Valéry Giscard d'Estaing.
À 23h05 hier soir, le communiqué officiel est tombé. Valéry Giscard d'Estaing nous a quittés à l'âge de 94 ans, troisième président de la 5e République, élu à 48 ans. Il avait donné le ton lors de son investiture le 27 mai 1974.
J'ai compris dans cette campagne que vous souhaitiez le changement. Vous ne serez pas déçus. Car c'est bien le changement que je conduirai avec vous.
Un président qui a marqué par sa modernité lorsqu'il s'invite à dîner chez les Français, joue de l'accordéon, se laisse photographier en maillot de bain, dévale les pistes de ski, reportage à l'époque.
Pour la petite histoire, la famille Giscard d'Estaing a déjeuné dans un restaurant d'altitude hier midi. Au menu, jambon de pays, salade de pissenlit et tarte aux myrtilles. Il reste un peu moins d'une semaine au président pour perfectionner son style et surtout se détendre en famille, si possible, sans témoin.
Un style aussi pour le passage à la nouvelle année.
Je crois qu'Anémone veut aussi vous adresser ses vœux.
À tous et à toutes, j'exprime mes vœux très chaleureux.
Et des réformes emblématiques qui ont surtout marqué notre société.
Les années Giscard, c'est la majorité à 18 ans au lieu de 21 ans jusque-là. C'est plus d'indépendance pour les femmes avec le remboursement de la contraception et la possibilité d'interrompre une grossesse légalement à l'hôpital, de même que le divorce par consentement mutuel.
Mais ironie du sort, l'abaissement de la majorité a participé à sa défaite en 1981. François Hollande était l'invité de RTL ce matin.
Ce qui était un choix courageux, parce que je pense que si elle était restée à 21 ans, il aurait peut-être été réélu en 1981.
Mais pas seulement, car tout n'a pas été rose pendant le septennat de Valéry Giscard d'Estaing.
La France est frappée par le deuxième choc pétrolier. Le carburant augmente de 130% en un an. L'inflation est galopante. La situation sociale se tend. C'est le début de ce qu'on appelle le chômage de masse. Et puis, il y a les affaires dont il ne se remettra jamais, notamment l'affaire des diamants de Bokassa.
Le 10 mai 1981, il perd l'élection présidentielle face à François Mitterrand. Il échoue à se faire réélire. Un moment forcément compliqué pour l'ancien président. Son fils, Louis Giscard d'Estaing, était l'invité de RTL Midi avec Christelle Robillard.
Évidemment, en 1981, il vit douloureusement le fait qu'il n'est pas reconduit dans cette responsabilité parce qu'il estimait qu'il était le plus qualifié.
Et Valéry Giscard d'Estaing n'est jamais retourné à l'Élysée après 1981, elle y sauf une fois parce qu'il rentrait à l'Académie française. Il fallait être reçu par le président, en l'occurrence Jacques Chirac. Alors nous vous attendons de nouveau au 32-10. Valéry Giscard d'Estaing avait un souhait pour le jour de sa disparition.
Bon, j'aimerais qu'on soit bienveillants.
Quel souvenir garderez-vous de l'ancien président? Patrick Poivre d'Arvor lui a rendu hommage ce matin sur RTL.
On avait souvent l'impression d'être plus intelligent après lui avoir parlé.
Quelle parole retiendrez-vous?
Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas.
Avez-vous été marqué par sa sortie et son départ de l'Élysée?
Au revoir.
Vous avez la parole jusqu'à 14h30 dans l'émission.
Formidable d'écouter
Laurent Tessier.
Oui, et puis d'écouter ces paroles-là et ce montage-là. Cyprien Signy est resté avec nous, il va nous faire un mini-surf exceptionnellement. Mais dernière chose avec Benjamin Sportouche, qu'est-ce qui est prévu comme cérémonie officielle? Est-ce que la République est en deuil? Est-ce qu'il y a quelque chose, des obsèques nationales?
Non. Alors,
il y a obsèques nationales quand même.
La famille ne souhaite pas d'hommage national, c'est ce qu'elle a dit pour l'instant, c'est ce que j'ai appris dans l'entourage du président de la République, d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas ce souhait, alors ça peut paraître surprenant. Est-ce que ce sera aussi une manière, comme il l'a fait avec son au revoir, de terminer, de quelque part, est-ce que ça traduit pas aussi une forme de départ un peu amer de ce
J'aime
président.
Pas le mot amer.
Alors en tous les cas, comment diriez-vous alors?
J'espère qu'il ne l'est pas tout cas. Il peut regretter. Il l'avait dit d'ailleurs, regret et nostalgie. Il l'avait dit à Thomas Soto, c'est une interview formidable qu'avait fait Thomas.
En tous les cas, il n'a pas ce souhait-là. Ce ne sera pas comme Jacques Chirac. On attend de voir exactement comment ça va se passer, mais ce sont des obsèques dans l'intimité familiale qu'il a demandé.
Un mot de Cyprien Signy. Merci Benjamin Sportouche. Vraiment merci. On vous écoute ce soir avec le président Macron. Quoi, avant, en tout cas, dans le 18-20.
Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous dimanche pour le grand jury. Ouais.
Je crois qu'il n'avait pas prévu de rester.
Parce que on est sur le
Et puis, Cyprien, restez quelques secondes avec nous, parce que les auditeurs, quand même, c'est l'émission des auditeurs.
Ah bah évidemment.
Donc, qui est avec nous? Qui est avec nous? On a eu Christian tout à l'heure. Peut-être Christine, cette fois-ci. Non, Christine était sur les Champs-Élysées. Donc, qui n'avons pas eu eh bien, je crois que Marie-Christine. Nous n'avons pas eu Marie-Christine, qui habite dans le Loir-et-Cher. Bonjour.
Allô? Bonjour, Pascal. Eh bien, écoutez, oui, aujourd'hui, c'est une grande tristesse, parce que c'est le premier, c'est mon premier vote à 21 ans, puisque j'ai eu 21 ans en 81. Et j'ai une image qui m'a beaucoup marquée et que j'ai revue encore aujourd'hui. C'est quand a été fait l'annonce du président élu. Je ne sais pas si vous vous rappelez que François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing étaient tous les deux un peu dégarnis au niveau des cheveux.
Ah oui, ça c'est 81.
Et en 81, oui. Ah, ben en 74, j'avais 14 ans, hein, donc c'était un peu compliqué. Mais je me rappelle bien de la campagne de 81. Je vois cette image qui descend et je dis à mes parents, c'est bon, il est élu. Et là, grande déception.
Bon, c'était voilà, Mitterrand.
C'était Mitterrand. Bon, ça, c'est vrai que ça a été... parce que pour moi, c'était quelqu'un qui représentait la France que nous n'avons plus aujourd'hui, par certains côtés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de respect de beaucoup de choses. Il y a eu un témoignage d'un jeune ce matin qui était interviewé et qui disait il a donné la majorité à 18 ans, mais il dit en fait je suis encore sous l'autorité de mes parents, donc ça va rien changer que j'ai le droit de vote à 18 ans. Aujourd'hui on n'entendra pas un jeune dire j'ai le droit de vote à 16 ans et je suis sous l'autorité de mes parents, donc bref, voilà. Mais en fait, moi, ce matin, j'ai témoigné parce que pour moi, c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent. C'est quelqu'un que dans le Loir-et-Cher, moi, je suis à peu près à 8-10 kilomètres de Autun. C'est quelqu'un qu'on croisait souvent à Montoir. Alors, c'est une image idiote que je vais vous donner, hein, mais il était en bottes, en pantalon de velours et col roulé, qui disait bonjour à tout le monde. Il allait pas forcément vers les gens, mais s'il voyait que les gens le regardaient un petit peu ou autre, il avait toujours un mot gentil. Il venait à la messe à Montoir tout simplement avec sa famille, mais sans dire je suis le président de la République, et sans accompagnement de qui que ce soit. Il n'y avait pas de gendarme, il n'y avait rien. Il vivait comme un homme très simple et d'une très très grande gentillesse.
Mais merci beaucoup Marie-Christine. Une page de publicité, je garde Cyprien Sini quelques secondes.
Encore un peu.
Mais oui, parce que je veux que vous nous fassiez un mini-surf de ce que vous avez passé ce matin. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et ce cher Cyprien Sini qui, depuis le 1er décembre, a 40 ans, qui a basculé donc dans un autre monde. Bon, donnez-nous trois sons qu'on n'aurait pas entendus ou qu'on n'entendra pas aujourd'hui de Valéry Giscard d'Estaing.
Maintenant, vous m'avez demandé d'illustrer, là, rapidement. Alors, en fait, c'était le président médiatique, le JFK de Chamalières, un petit peu. Vous voyez, qui se retrouvait dans les émissions de variété. C'est le premier à avoir fait ça, le premier politique, en 73, chez Daniel Gilbert.
Et nous avions tout prévu, nous avions pris votre accordéon.
Ah, c'est lui qui joue.
Monsieur le maire, je pense avoir deviné de quel air il s'agit.
Alors, quel était l'air?
Je cherche fortune autour du chat noir.
Vous avez gagné.
Et qu'est-ce que j'ai gagné?
Vous voulez savoir quelle sera votre récompense?
Oui.
Eh bien, ce sera un deuxième air d'accordéon.
Et c'est reparti pour un tour, là, c'est un peu ça. Eh bien, ce qui est marrant, c'est que président un jour, président toujours, Giscard. Bien des années plus tard, on le retrouve à une fête des voisins. Oui, vous savez, la fête des voisins, tout le monde fait. Et il débarque dans l'immeuble de la copropriété du 16e, là où il est, et il joue au président.
J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Nous allons ravaler l'immeuble au mois de septembre.
Oh, c'est bien. Même dans une réunion de copropriété, c'est lui qui annonce, c'est lui qui pose les choses. Voilà, et puis... une dernière anecdote, parce qu'il a quand même eu une vie riche. Hein. Sa fille a notamment travaillé au zoo de Vincennes, figurez-vous.
Oui, Jacinthe.
Et ils ont accueilli des pandas. Et là, il a voulu aller voir les pandas.
J'ai survécu à une attaque de pandas. Ma fille faisait un stage au zoo de Vincennes. Pour leur montrer le courage du président de la République, j'ai voulu entrer dans leur cage. Et dans la seconde, un panda m'a sauté dessus.
Alors, il y a le côté froid, il y a le côté austère, mais il avait un côté marrant aussi.
Ben merci, vraiment, merci Cyprien. On est avec Jean-François. Bonjour Jean-François qui habite Paris. Et chacun raconte son Giscard à lui, si j'ose dire.
Donc, c'est ce qu'on a
remporté. Jean-François, il faut que vous nous parliez à nous, puisque vous parlez peut-être à votre épouse ou à un ami, je ne sais pas.
Un collaborateur. Bonjour Pascal.
Bonjour et merci d'être avec nous.
Je vous en prie. Je voulais parler d'un épisode qui m'est arrivé en 80, donc en 74, j'avais 17 ans, j'étais donc jeune giscardien, et j'avais fait la campagne Giscard à la barre, passionnante, extraordinaire, une campagne éclair. J'avais suivi bien sûr le septennat avec beaucoup d'intérêt. Et en 81, je refais la campagne en tant que militant, et bien sûr très déçu le soir du 10 mai. Et donc avec des amis, nous étions partis en vacances après, j'étais encore étudiant à l'époque, et puis j'avais fait une carte postale au président Giscard d'Estaing avec des amis en disant, voilà, nous sommes des militants de l'UDF, très déçus par votre non-élection, nous sommes de tout soutien avec vous. Très bien, bon, on voit la carte postale. En fait, on était en Vanoise. Et en septembre, retour sur Paris, je reçois un coup de fil d'une dame. Bonjour, monsieur, monsieur Canarty. Oui, le président Giscard d'Estaing a reçu votre carte postale et serait très heureux de vous recevoir. Qu'est-ce que c'est une plaisanterie ? Non, non, monsieur, ce n'est pas une plaisanterie. Le président était très touché par votre carte et souhaiterait vous recevoir. Est-ce que vous êtes d'accord pour. Monsieur, aucun problème. Donc, nous avons convenu une date et quelques jours après, avec les amis avec lesquels nous étions en vacances, nous avons été reçus rue de Bénouville par le président Giscard d'Estaing pendant 2 heures. On pensait que ça durait un quart d'heure. Pendant 2 heures, je me rappelle comme si c'était hier, il y avait un pull en cachemire vert, il nous a reçus autour d'une tasse de thé. Et là, bon, j'avais bien sûr conscience de la grande intelligence de ce président, mais c'était que des fulgurances. On a été extrêmement frappés, admiratifs. On a posé bien sûr tout un tas de questions qu'on avait préparées en avance. Il répond à la question, mais il répond déjà aux questions d'avril. C'était déjà en anticipation. Et je me rappellerai toujours, quand on l'a quitté, sous le coup de l'admiration que nous avions pour ce président, je suis encore dans le deuil de cet échec. Mais je me remettrai. C'était assez frappant. Et donc, bien sûr, j'ai suivi, je n'ai qu'un espoir, c'est que, parce que pour moi, c'est un des plus grands présidents de la 5e. Avec le général de Gaulle, bien évidemment. Et il a perdu parce qu'il a été trahi. Il a été trahi 2 fois. Il a été trahi en 95, il a été trahi en 81. Et je trouve dommage parce que je pense qu'il aurait fait un deuxième septennat de modernité, comme il a fait dans le premier. C'est incroyable le nombre de réformes qu'il a faites. C'est incroyable. Et je trouve que son septennat a été sous-estimé.
Voilà, ben merci Jean-François de ce témoignage. Merci beaucoup. On va marquer une nouvelle pause, mais comme nous égrenons les chansons, on était à 78, je crois.
Oui, absolument. Et en 1978, on pouvait écouter Michel Sardou.
Tous les hommes vont en galère, à la pêche ou à la guerre, en chantant la fleur au bout du fusil.
Mais pas que, car il y avait Renaud aussi.
M'a filé une beigne, j'ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles.
La publicité, on va appeler Jérôme de Verdière parce que Jérôme écrit avec Laurent Gérard des sketchs où il parodie Valéry Giscard d'Estaing. Alors, c'est toujours difficile, bien sûr, lorsqu'un homme est décédé. Est-ce qu'ils vont continuer? Est-ce qu'ils vont trouver un nouvel emploi pour Valéry Giscard d'Estaing? Je vais lui parler dans quelques instants. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Je salue Jérôme de Verdière.
Bonjour Pascal.
Bonjour cher Jérôme. C'est quand même extraordinaire que vous soyez obligé d'aller chercher des hommes politiques qui ont quitté le pouvoir en 81, mais qui sont tellement présents dans la société quand même d'aujourd'hui, comme si il n'y avait pas de remplaçants.
Ben alors ça, c'est vrai qu'on s'aperçoit quand ces personnages-là disparaissent qu'il n'y a pas de remplaçants. En tout cas, on n'a pas autant de personnages avec cette épaisseur-là, j'allais dire. Mais c'était très amusant, parce que vous le faites très bien, d'ailleurs, Laurent Gérard, du souci à se faire, parce que vous imitez très bien Valéry Giscard d'Estaing.
Non, j'imite Laurent Gérard qui imite Giscard d'Estaing, c'est
oui,
un peu différent.
On fait tout ça, c'est vrai. Mais votre auditeur, juste avant...
Il le faisait bien aussi.
Mais il le faisait bien. Mais... C'est-à-dire que mais ça veut dire quelque chose, ça signifie quelque chose. Ça veut dire que ces gens-là ont évidemment traversé nos vies et surtout qu'ils ont des aspérités. Il y a des choses sur lesquelles on peut s'accrocher, nous autres humoristes. Et que ça soit avec Laurent sur RTL ou à la Revue de Presse, l'émission que je présente sur Paris Première, qui est une émission humoristique aussi, c'est vrai qu'on avait avec Giscard un personnage extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'il était dans le décalage. Et ça, c'est du pain béni pour les humoristes. C'est-à-dire que c'était le châtelain qui mettait des bottes aigle toutes neuves, qui restaient bien neuves, pour aller visiter les fermiers, quoi. C'était Giscard. Et même récemment, parce que vous dites, on allait le rechercher. Mais il était toujours là, Giscard. Et toujours dans le décalage. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui était à l'Académie française, et qui n'avait de cesse que d'écrire des romans qui étaient quand même plus du Guillaume Musso ou du Marc Lévy que du Céline ou du Sandrard. Quoi.
Est-ce que vous avez déjà réfléchi à un nouvel emploi ? Par exemple, vous aviez donné un nouvel emploi, c'était merveilleux, ça, à François Mitterrand qui venait titiller François Hollande, et c'était d'une drôlerie, d'une très grande drôlerie. Alors, est-ce que pour Giscard, l'écrivain que vous êtes, a déjà une piste ?
Peut-être, on en parlait justement ce matin avec Laurent, j'en parlais avec Laurent, et c'est vrai qu'on a entendu François Bayrou sur RTL, d'ailleurs, ce matin, rendre hommage à Valéry Giscard d'Estaing, et il n'est pas impossible que Valéry Giscard d'Estaing continue à poursuivre François Bayrou dans que c'est vrai qu'il a il a essayé de le remplacer. Y est-il vraiment parvenu ? C'est pas sûr.
Et vous le faites appeler, je crois, François Bayrou U. C'est ça, je crois. Hein. Il dit Bayrou U, me semble-t-il, dans la voix de Laurent Gérard.
Mais bien sûr, Bayrou. Bon, Bayrou, excusez-moi, Bayrou. oui, non, il va continuer évidemment à être là, mais c'est vrai que c'est voilà, on a perdu un personnage étonnant et qui était inspirant, quoi. Mais bon, heureusement, il y en a d'autres. Il y en a peut-être moins, mais il y en a d'autres quand même.
Bon, bah merci Jérôme de Verdière, merci pour votre talent et saluer l'ami Laurent et Jade. Merveilleuse Jade, tellement merveilleuse.
Beaucoup. Et d'ailleurs, vous êtes souvent dans la chronique, Pascal.
Oui, papa, on me le dit. Mais Gérard Leclerc vous embrasse aussi.
je ne vous dis pas bonjour, Pascal, mais je vous dis au revoir.
Voilà, au 32 vif. Je pose la question. Bon, Christian, Véronique est là. Véronique, pour terminer dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Véronique.
Bonjour Pascal.
Ça me fait plaisir de vous entendre.
Merci.
Véronique,
beaucoup.
C'est vraiment d'un prénom des années 60 et 70.
Ah, maman, je suis des années 50, hein.
Oui, mais il y en avait moins. Mais c'était, il y avait, dans les classes, il y avait des Véroniques, beaucoup.
Oui.
Et on s'en souvient
oui.
Forcément.
Eh bien, écoutez, moi, je suis très triste de sa disparition. Parce que, moi, je l'aimais beaucoup. Pourtant, j'étais petite, hein, comme je l'ai dit, en 1958. Je l'ai vue la première fois et j'ai mangé sur ses genoux. Parce que je ne voulais pas manger.
Non.
Mais si.
Vous avez mangé sur les genoux de Valéry Giscard d'Estaing ?
Tout à fait, j'avais 8 ans à l'époque.
Mais pourquoi ça ?
Eh bien, il était invité donc dans un château et mes parents étaient employés de maison. Et il venait toujours féliciter ma mère à la cuisine. Il avait toujours un mot gentil, toujours féliciter les gens. Et il jouait de l'accordéon avec mon père.
Ah, c'est drôle ça !
Et il était d'une générosité, d'une simplicité, d'une gentillesse. Et moi, ça ne m'étonne pas qu'il allait manger chez les gens. Hein. Ma mère était alsacienne, de Cologne, et lui, il était né à Coblence. Donc, il parlait un petit peu l'allemand, un peu l'alsacien. Mais c'était un homme vraiment bon, gentil, d'une simplicité, sans chichi, voilà. C'était lui.
Sans chichi, c'est amusant quand on parle de Chirac, mais Giscard, plus exactement. Mais je vous remercie grandement, en tout cas, Véronique, pour ce dernier témoignage. Et comme il reste une minute et qu'on était bloqué aux dernières années, parce qu'on s'est fait une petite playlist de toutes les musiques qui ont marqué entre 74 et 81, on n'aura pas une musique de Noël aujourd'hui, mais demain, nous reviendrons avec la musique de Noël. Terminé. Concluez, Grégory.
Eh bien, en 1979, c'est Johnny Hallyday qui chantait le bon temps du rock'n'roll. Vous chantez vraiment tout, hein ?
Je chante tout.
En 1980, Michel Berger, quelques mots d'amour.
Ça, c'est magnifique. Je t'envoie. Mais regardez la qualité de ces chanteurs, paroliers, écriture.
Et alors, pour terminer ?
Oui.
Jean Schultes. En 1981. Ce qui semble
faire un film. Même Flavie Flamand, elle est derrière.
Elle danse avec
la vitre, elle danse. Elle danse, Flavie. Bon, bah écoutez, c'était bien. 14h27. Générique verdict plus exactement avec Laurent Tessier. Et à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RT.